Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Le monde aujourd'hui, VOA Afrique, édition du lundi 1er août 2022. Bonjour à toutes et à tous. En direct de Washington, Idrissa Sedoulia. Pour commencer, les titres. Le premier chargement de céréales ukrainiennes a quitté Odessa aujourd'hui. Au Sénégal, la coalition présidentielle et l'opposition crient toutes deux victoires après les législatives d'hier. Au Congo-Brazzaville, législative également, un second tour sans grande affluence selon notre correspondant sur place. Au Mali, deux attaques contre des campements nomades ont fait au moins 16 morts dans le nord-est du pays. En Guinée, organisations et diplomates appellent d'urgence à un dialogue national inclusif après des manifestations interdites qui ont fait plusieurs morts. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, outré par les tirs de casque bleu qui ont fait deux morts hier en RDC. Bill Russell, le joueur légendaire des Boston Celtics, mort à 88 ans. Ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco. Pour l'instant, le journal. Au Sénégal, après un vote dans le calme, les deux principales coalitions se livrent à une guerre des chiffres. Face à la presse, l'ancienne première ministre Aminata Touré a affirmé que 30 départements ont été gagnés par la coalition présidentielle dont elle est la tête de liste. Des chiffres contestés par le maire de Dakar, Barthélémy Diaz, tête de file de la coalition d'opposition Yehu Askanui dans la capitale. Le point avec notre correspondant à Dakar, Seydina Abagui.
L'une des seules constantes dans la compilation des résultats est la domination de l'opposition dans la capitale sénégalaise. Après les élections locales gagnées largement, le nouveau maire de Dakar, Barthélémy Diaz, a confirmé avec la coalition Yehu Askanui. Au-delà de la ville, tous les autres départements de la région de Dakar ont été gagnés par l'opposition qui s'adjuge ainsi les 18 sièges de députés en jeu dans cette circonscription administrative. La compilation des résultats montre également que la cité religieuse de Touba, qui est l'un des centres électoraux les plus importants du pays, est restée fidèle à l'ancien président Abdoulaye Wade, tout comme le département de Ziguinchor l'est resté envers l'opposant Ousmane Sonko. L'ancienne capitale Saint-Louis est également tombée dans l'escarcelle de la coalition d'opposition Yehu Askanui après avoir résisté lors des dernières élections locales. De son côté, la coalition au pouvoir a pu compter sur les zones déjà acquises à sa cause. C'est le cas de Fatick et Matam, les deux fiefs du président Macky Sall, de Kaffrine et de Linguère. Si les tendances des départements précités ne sont pour le moment pas contestées par les différents camps, pour plusieurs autres localités, la guerre des chiffres fait rage entre l'opposition et le pouvoir. Cela en attendant les résultats officiels qui seront proclamés dans les prochains jours. Seydina Abagui à Dakar pour VOA Afrique.
Au Mali, au moins 16 personnes ont été tuées dans la région de Ménaka, dans le nord-est frontalier du Niger, lors d'attaques de djihadistes présumés sur des campements nomades Nanik Talani.
Les assassinats ont été perpétrés le soir entre mercredi et jeudi avec le même mode opératoire. Des assaillants à moto qui viennent dans le campement tirent à bout portant sur les personnes sans distinction et emportent le bétail, ont indiqué les autorités hier. La première attaque a fait 12 morts dans le campement de Tifolat et l'autre menée dans le campement d'Inekar Tadriante a fait 5 morts. Selon des leaders de la communauté nomade Touareg d'Aoussak, également appelée Idakchaak, ces massacres de civils ont été commis par le groupe État islamique au Grand Sahara qui opère dans la zone. Le terrorisme ravage les innocents dans cette partie du pays dans un silence assourdissant, a affirmé Moussa Ag Acharatoumane, chef du mouvement pour le salut de l'Azawad, groupe armé pro-gouvernement qui a signé les accords de paix de 2015. L'État a une faible présence dans cette immense région où opèrent des groupes armés, des djihadistes ainsi que des bandits et divers trafiquants.
En Guinée, des organisations de la société civile, des partis politiques et des diplomates ont dénoncé hier le recours à la force après des manifestations interdites qui ont fait plusieurs morts. Ils appellent d'urgence à un dialogue national, Michel Joseph.
Les forces vives de la nation exigent l'ouverture immédiate d'un cadre de dialogue inclusif. Elles menacent de nouvelles manifestations à partir du 15 août prochain dans tout le pays. Cette coalition, tout comme l'Organisation guinéenne de défense des droits de l'homme et du citoyen, réclame une enquête indépendante pour déterminer les circonstances qui ont entraîné les différents décès au cours des dernières manifestations et la libération immédiate et sans condition de tous les détenus d'opinion. La junte, présidée par le colonel Mamadi Doumbouya, a réquisitionné l'armée pour le maintien de l'ordre et procédé vendredi et samedi dernier à des dizaines d'interpellations. Le G5 Guinée, un groupe de diplomates qui regroupe les Nations Unies, la CEDEAO, l'Union Européenne, les États-Unis et la France, dit avoir suivi avec une vive préoccupation les événements de ces derniers jours, dont la tournure violente a causé la perte de vie humaine, de nombreux blessés et d'importants dégâts matériels. Il déplore le recours excessif à la force et l'utilisation alléguée d'armes létales pour le maintien de l'ordre.
Au Nigeria, des hommes armés soupçonnés d'être des bandits ont tué 8 membres du personnel de sécurité, dont 3 policiers et 5 miliciens, dans une embuscade samedi dans l'état de Kogi, a-t-on appris dimanche auprès des autorités locales. Cet état du centre du pays connaît une recrudescence des attaques, certaines revendiquées par des djihadistes du groupe État islamique, opérant en dehors de leur base habituelle dans le nord-est. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, s'est dit outré de la mort dimanche de 2 personnes lorsque des casques bleus ont ouvert le feu sur un poste frontalier avec l'Ouganda dans l'est troublé de la République démocratique du Congo. Rosine Munezero.
Monsieur Guterres souligne avec la plus grande fermeté la nécessité d'établir la responsabilité de ces événements et approuve la mise en détention du personnel militaire mis en cause dans cet incident et l'ouverture immédiate d'une enquête, a précisé dans un communiqué un porte-parole adjoint du secrétaire général Farhan Haq. Dans une vidéo de l'incident partagée sur les réseaux sociaux, on voit des hommes dont au moins un en tenue de policier et un autre de militaire congolais s'avancer vers le convoi immobilisé de l'autre côté de la barrière fermée à Kassindi, dans le territoire de Beni, à la frontière avec l'Ouganda. Après un échange verbal, on voit les casques bleus présumés tirer des coups de feu avant d'ouvrir la barrière et de franchir le poste. La chef de la MONUSCO, Bintou Keïta, a déploré et condamné vigoureusement cet incident, tout comme le gouvernement congolais qui a de son côté parlé de l'ouverture d'une enquête en collaboration avec l'ONU. La semaine dernière, des manifestations meurtrières accompagnées des destructions et pillages ont eu lieu dans plusieurs villes de l'est de la RDC pour réclamer le départ des Nations Unies, accusées d'inefficacité dans la lutte contre la centaine de groupes armés dans la région. 19 personnes, dont 3 casques bleus, ont été tuées dans ces manifestations violentes.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le premier chargement de céréales ukrainiennes a quitté le port d'Odessa à 6h17 GMT ce lundi, conformément au terme de l'accord international avec la Russie signé à Istanbul, a annoncé le ministère turc de la Défense. Le navire Razoni a quitté le port d'Odessa à destination du port de Tripoli au Liban. Il est attendu le 2 août à Istanbul. Il continuera sa route vers sa destination à la suite des inspections qui seront menées à Istanbul, a ajouté le ministère, assurant que d'autres convois vont désormais suivre le long des couloirs maritimes car les procédures sont terminées. La présidente de la Chambre des représentants des États-Unis, Nancy Pelosi, était attendue à Singapour ce lundi, première étape d'une tournée asiatique qui pourrait comprendre un passage à Taïwan au risque d'envenimer encore plus les relations déjà tendues entre Pékin et Washington. Après avoir longtemps entretenu le flou autour de son programme en Asie, Mme Pelosi a annoncé dimanche conduire une délégation du Congrès dans la région Indo-Pacifique pour réaffirmer l'engagement inébranlable de l'Amérique envers ses alliés et amis dans la région, sans mentionner Taïwan dans son itinéraire. Pékin verrait comme une provocation un passage même bref de la présidente de la Chambre des représentants sur l'île, que Pékin considère comme faisant partie de son territoire. Ici aux États-Unis, les sauveteurs font désormais du porte-à-porte pour localiser les victimes d'inondations dévastatrices parmi les plus graves qui aient jamais frappé le Kentucky, alors que la pluie a repris après quelques heures d'accalmie, a déclaré dimanche le gouverneur de l'État. La Minute Éco, Nanit Talani.
La Côte d'Ivoire et le Ghana, les plus grands producteurs de cacao au monde, vont augmenter ce mois-ci la prime que les chocolatiers et les négociants payent pour leurs fèves afin de sortir les petits exploitants agricoles de la précarité. Au Ghana, Coco Bod haussera son différentiel à 20 livres par tonne. Les deux pays produisent ensemble plus de 60% du cacao mondial et ont décidé en mai de publier conjointement chaque mois leur prime. Les ventes de diamants bruts de Debswana Diamond Company ont bondi de 54% et se sont élevées à 2,622 milliards de dollars au cours des six premiers mois de 2022 contre 1,703 milliards de dollars à la même période de l'an dernier, selon la Banque du Botswana. La hausse est tributaire d'une forte demande de bijoux sur le marché clé des États-Unis et par une offre mondiale de diamants bruts restreinte. Debswana est une joint venture entre l'entreprise anglo-américaine De Beers et le gouvernement du Botswana. Pour terminer, la demande mondiale de charbon devrait légèrement augmenter cette année pour atteindre un niveau record atteint il y a près de 10 ans, estime l'Agence internationale de l'énergie, alors que les prix du gaz ont grimpé en flèche. La consommation mondiale de charbon devrait augmenter de 0,7% pour atteindre 8 milliards de tonnes. La combustion continue de grandes quantités de charbon dans le monde accroît les préoccupations climatiques, car le charbon est la plus grande source d'émissions de gaz carbonique liées à l'énergie.
Merci Nanit. Les sports à présent avec Élisée Pompatine. Élisée, bonjour.
Bonjour Idrissa et bonjour à tous.
On commence par du football. L'Angleterre remporte l'Euro féminin à domicile en battant l'Allemagne en finale.
Oui, on annonçait cette finale indécise. Elle le fut pendant au moins une bonne heure devant le public à Wembley. Les Anglaises ont dû passer par la prolongation avant de battre les tenantes du titre allemande 2-1. Un an après la défaite des garçons face à l'Italie, elles ont vaincu la malédiction pour apporter un premier sacre chez les seniors depuis la Coupe du Monde de 1966.
Sur le continent africain, on jouait le premier tour retour des éliminatoires du CHAN 2023.
Tout à fait. Et dans la zone sud, Madagascar, vainqueur 3-0 des Seychelles, sera opposé au Botswana qui a écarté le Swatini. Qualification également de l'Afrique du Sud. Victorieuse 1-0 des Comores au tour suivant. Les Bafana Bafana joueront les Palancas Negras d'Angola qui ont facilement pris le meilleur sur l'île Maurice 2-0, 1-0. Et puis le Mozambique qui est allé battre la Zambie 1-0 après le nul 0-0 du match aller va en découdre avec le Malawi.
Dans la zone UFOA, la Guinée-Bissau surprend la Gambie.
Les Djoutous ont refait leur retard 1-0 du match aller pour jouer la Mauritanie au tour suivant. Ça passe aussi pour la Sierra Leone, tombeuse du Cap Vert. Elle fera face au Mali en fin août. De même pour le Sénégal qui va croiser la Guinée après avoir éliminé le Libéria. Ça cale en revanche pour le Bénin, battu deux fois par le Ghana. 3-0 à Cape Coast et 1-0 à Cotonou. Les Black Stars affronteront au tour décisif les Super Eagles du Nigeria. A noter que les matchs allés de ce second tour vont se disputer entre le 26 et le 28 août. Le retour une semaine plus tard.
Du tennis avec l'épilogue du groupe 4 de la Coupe Davis au Cameroun.
Exactement Idrissa, et c'est le Sénégal qui est sorti vainqueur de ce tournoi qui a recoupé 8 pays africains après avoir battu le Burundi en finale 2-1. Tout s'est joué dans le double décisif remporté 2-7-0 par la paire Nicolas Jadoum et Seydina André. Un sacre qui permet donc au pays d'accéder dans le groupe 3 pour la saison 2023.
Une mauvaise nouvelle pour les fans du basketball. Le légendaire pivot des Boston Celtics, Bill Russell, est mort hier à 88 ans. Premier joueur noir à atteindre le statut de superstar en NBA, Bill Russell compte à son palmarès, outre ses 11 titres de champion NBA, une médaille d'or olympique remportée en 1956. Il a été également le premier Africain-Américain a entraîné une équipe d'un grand championnat nord-américain en dirigeant notamment ses Celtics de 1966 à 1969.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Idrissa Sidoudia. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Les Sénégalais étaient appelés aux urnes ce dimanche pour élire les députés de la 14e législature. Le défi majeur pour les acteurs politiques était de faire voter les Sénégalais, soit pour installer la cohabitation, soit pour renforcer la majorité parlementaire du président Macky Sall. De Dakar, notre correspondant Sédina Abagué.
Malgré les tensions notées durant la campagne électorale, le scrutin s'est passé sans couac majeur. Pour Mamkhari Diop, qui est venu voter en famille, le manque de mobilisation des citoyens est la seule fausse note.
Le pouvoir qui appartient au peuple, c'est l'Assemblée nationale. Donc par le peuple, pour le peuple, et en fait il faut que le peuple puisse s'exprimer, parce que quand on passe des lois et que les gens se plaignent, ben, quand c'est le moment, il faut sortir et il faut s'exprimer. C'est pas que de manifester, de se tuer dehors. Quand c'est le moment de s'exprimer au niveau des urnes, il faut sortir.
Ismaël Diagne est lui aussi venu accomplir son devoir citoyen. Pour ce jeune homme, le manque d'engouement serait dû à la méconnaissance du rôle de l'hémicycle.
J'ai vu des élections, il y avait beaucoup plus de monde, des législatives ou des municipales, les présidentielles. Bon, après, d'habitude, les législatives, les gens se sentent peut-être un peu moins concernés. Parce que c'est, en tout cas, l'impact sur la population directe n'est pas forcément très clair. Mais c'est peut-être pour ça.
Bintou Sidibé Diallo, elle, est venue superviser le scrutin pour la plateforme de la société civile Eutoudiam.
Essentiellement, quelques partis ont été représentés. Généralement, deux partis ont eu des représentants, c'est Benno Bokoyakar et Yéli Askanmi. Au niveau du personnel administratif, le personnel qui dirige les bureaux de vote, pour la plupart, ce sont des hommes, à l'exception de deux bureaux où tout le personnel administratif est composé de femmes. Le dispositif en faveur des personnes à mobilité réduite est toujours présent. Et aussi, les présidents, en tout cas, se sont acquittés de leur tâche. Et pour la plupart, le vote s'est déroulé normalement.
Beaucoup d'observateurs craignaient que l'escalade verbale et les tensions qui ont suivi ces derniers mois ne perturbent le vote. Mais les législatives se sont déroulées sans anicroche. Maintenant, les Sénégalais attendent les résultats de ce scrutin, considéré comme un test avant la présidentielle de 2024. Sédina Bagué à Dakar pour VOA Afrique.
FM 102, c'est VOA Afrique à Dakar au Sénégal, 24h sur 24.
Au Congo-Brazzaville, on a aussi voté hier dimanche. C'était pour le deuxième tour des législatives. Le scrutin s'est déroulé dans le calme, mais là aussi, il n'y a pas eu grande affluence. À Muyonji, dans le sud-ouest, où s'affrontaient l'opposante Claudine Mounari et une candidate du parti présidentiel Jacqueline Lydia Mikolo, les populations ont crié victoire dans les deux camps, alors que les résultats officiels ne seront pas connus avant mercredi. Le point avec notre correspondant à Brazzaville, Arsène Sévra.
Il s'agissait de départager deux candidats dont chacune des 27 circonscriptions en jeu dans le pays. À Brazzaville, la faible participation des électeurs a été à nouveau constatée. Dans l'un des bureaux de vote de Mungali, 3 sur 979 inscrits, seulement 89 ont voté. Ainsi les déplorent ici les présidents des bureaux de vote.
Dans mon bureau, par rapport au nombre de votants, le taux est peu faible, mais je n'ai pas encore eu le pourcentage final. On va vous les communiquer ultérieurement.
Non, il n'y a pas eu de monde, On était dans mon bureau de vote, il y avait 1001. Ah, il y a beaucoup d'absents, autour de 700. Ça s'est très bien passé. Ça a été transparent.
Bon, il n'y a pas vraiment eu un engouement, parce que dans notre bureau de vote, il y a 992 inscrits. Il y a à peine 114 votants. Il n'y a pas eu un engouement. Le matin, c'était un désert. Bon, on peut comprendre aussi, c'est le dimanche. Ils n'ont pas voulu voter. Ce qu'on déplore chez les électeurs, c'est ça. Vous voulez le changement, mais vous ne voulez pas voter.
à Mouyondi, où l'opposante Claudine Mounari affrontait la ministre Jacqueline Lydia Mikolo, le vote s'est déroulé dans le calme, déjouant ainsi tous les pronostics des risques d'embrasement. La candidate de l'opposition, n'ayant pas son nom sur la liste électorale, n'a pu voter. Actuellement, chacun de camps réclame la victoire et les célébrations ont eu lieu dimanche soir dans la ville de Mouyondi. Henri Bouka, le président de la Commission nationale électorale indépendante, s'est naturellement montré confiant et positif quant à la tenue globale du scrutin et s'est satisfait d'un bon taux de participation. Avant la fin du vote, Henri Bouka faisait le point.
À Brazzaville, il y a toujours une certaine timidité dans le déplacement des électeurs, mais je viens de visiter quelques bureaux de vote. À cette heure-ci, il y a des taux de 25% de participation, d'autres un peu moins, d'autres un peu plus. Mais à l'intérieur, nous avons beaucoup d'engouement. À Moutamba, par exemple, à 13h à Moutamba, il y avait déjà 60% de taux de participation.
Au premier tour, le 10 juillet dernier, 124 députés ont été élus, dont 103 pour le PCT, le parti présidentiel. L'Assemblée nationale compte 151 sièges. L'UPADES et l'UDH-UKI, les deux principales formations de l'opposition, espèrent gagner 10 sièges chacune à la fin de ces élections. Arsène Séverin, Brazzaville, VOA Afrique.
Restez à l'écoute de VOA Afrique 24h sur 24 sur 104.3 FM à Brazzaville et 98.3 FM à Pointe-Noire.
Au Nigeria, le chef d'état-major de l'armée vient d'effectuer un remaniement majeur affectant des officiers supérieurs. À 7 mois de la présidentielle, l'insécurité reste un grand défi à relever par le président Muhammadu Buhari. Il avait promis de mettre fin à l'insurrection djihadiste, mais depuis, les attaques se sont multipliées et diversifiées sur tout le territoire. D'Abuja, Gilbert Tamba fait le point.
La haute hiérarchie militaire affirme que les nouvelles réformes et nominations au sein de l'armée visent à la repositionner pour une efficacité opérationnelle. Ces changements touchent certains officiers de l'état-major, des officiers généraux, des commandants de corps, des commandants d'institutions de formation, des commandants de brigade, entre autres. La réaction de Sadiq Garbachew, un ancien officier de l'armée, aujourd'hui à la retraite.
C'est un changement administratif. Ça n'a rien à voir avec les opérations. Mais quand on voit à peu près la liste, on voit le changement. Le mouvement du général qui était chargé d'opération dans l'état de Kaduna. L'état de Kaduna est parmi les états qui ont des problèmes de la sécurité. Donc ça, pour moi, ça c'est le seul changement.
L'attaque récente de la prison de Kouyé, non loin d'Abuja, la capitale, a suivi quelques heures à peine une embuscade à un convoi de sécurité du président Muhammadu Buhari dans son état natal de Katsina. Ces deux incidents s'ajoutent à la sanglante rivalité entre Boko Haram et le groupe État islamique en Afrique de l'Ouest, les multiples enlèvements contre rançon, sans parler des mouvements séparatistes dans le delta du Niger et la région du Sud-Est. Des mélanges détonnants qui révèlent l'ampleur de la menace sécuritaire dans le pays. Yaoussa Guedso, expert en sécurité.
Je ne vois rien de sérieux dans ces nouvelles réformes. Je ne pense pas aussi qu'il y aura un changement. Mais nous leur accordons le bénéfice du doute pour voir ce qui va se passer. Nous sommes fatigués à entendre parler de ces réformes à tout moment sans aucun résultat. Ce n'est pas réaliste. Je ne pense pas qu'ils sont sérieux à vouloir faire le travail. Mais le temps nous dira.
La sécurité reste donc un enjeu majeur des élections générales et présidentielles de 2023 pour trouver le successeur au président Buhari après 2 mandats à la tête du pays. Les filles de Chibok n'ont pas encore été retrouvées, sauf au compte-gouttes. Récemment, un train de voyageurs a été attaqué près de la gare de Ridjana, reliant Abuja à Kaduna, une ville du nord-ouest. Une centaine de passagers ont été enlevés. Kabiru Adamu dirige une agence de sécurité, Beacon Consulting.
Si ces défis sécuritaires persistent, cela signifie que les élections pourraient ne pas avoir lieu, ou encore même si elles ont lieu, la crédibilité de ces élections pourrait être mise en doute parce que les électeurs ne pourront pas sortir et dans certaines localités, les élections ne vont pas se tenir. Donc, nous sommes vraiment préoccupés. Nous sommes aussi préoccupés par l'impact de l'insécurité sur l'économie. Elle affecte sérieusement l'économie.
Face à cette situation et à l'inaction du gouvernement, des sénateurs et députés de l'opposition menacent d'engager une procédure de destitution du président Muhammadu Buhari. Mais son conseiller à la sécurité nationale, Babagana Mungunu, fait confiance à l'armée nigériane.
Les forces de sécurité se sont engagées à prendre d'autres initiatives dans les prochaines semaines et ont déjà commencé à travailler sur les nouvelles stratégies pour mettre fin à la violence.
Les forces armées nigériennes se battent sur plusieurs fronts, mais elles sont aussi critiquées pour leur incapacité à répondre efficacement aux attaques incessantes sur les populations civiles. Gilbert Tamba Abuja pour VOA Afrique.
Washington, la voix d'Amérique.
Au Togo, la plage qui longe la capitale Lomé a perdu depuis quelques années déjà de sa beauté. Elle est devenue le réceptacle des eaux usées et sert de dépotoir aux riverains. Les autorités s'évertuent, tant bien que mal, à lui faire retrouver son lustre d'antan. De Lomé, notre correspondant Kossi Ousou.
En longeant le boulevard du Mono en bordure de mer, de la frontière ghanéenne vers le grand marché de Lomé, Marcel fait son habituel jogging matinal. Son constat est amer.
Dans les années 91-92, c'était avec plaisir qu'on allait à la plage, c'était très joli. Aujourd'hui, il faut reconnaître que la plage de Lomé se trouve dans un état très insalubre. C'est triste, hein, avec des eaux très usées, des plastiques, des fesses, etc. et ça pue.
Une pollution olfactive associée à d'autres types de saletés en tout genre, selon Balouki Boba, directeur des études et projets à l'Agence nationale de salubrité publique, ANASAP.
Notre plage est jonchée de déchets, de tout type. Ces déchets entassés essaient de créer du lithidia qui est un liquide vraiment toxique, qui contamine le sol et le sous-sol. Et une partie aussi de ces déchets, qui sont a priori plastiques, sont déversés directement dans la mer. Et la troisième pollution, c'est liée au méthane qui est conservé au sein de ces déchets et qui se dégage dans notre atmosphère. Voilà malheureusement ce que nous constatons aujourd'hui au niveau de notre plage.
Après ce diagnostic sans complaisance, le gouvernement a initié un projet d'assainissement sur 700 hectares. Il est appuyé par la Banque mondiale à hauteur de 114 millions de francs CFA à travers le projet Waka. Yao Komi, le coordonnateur adjoint du projet Waka.
Et nous appuyons ANASAP dans l'entretien de la plage. Nous allons appuyer l'ANASAP à acquérir deux engins. Les beach cleaners pour pouvoir mécaniser un peu l'entretien de la plage, à faire ce travail-là de façon efficace. Quand vous allez à la plage aujourd'hui, vous allez trouver un bloc de latrines. Il y aura au total 4 latrines publiques tout au long de la plage. Mm-hmm. Je crois qu'avec ces 4 latrines, nous allons contribuer significativement à l'assainissement de la plage.
Dovi Komlan, notable à la chefferie du quartier Nikonakwe, riverain de la plage de Lomé, exhorte ses concitoyens et usagers à une prise de conscience.
Nous menons des sensibilisations et nous disons à la population que la plage n'est ni un dépotoir, ni un lieu d'aisance. Nous devons, nous aussi par nos attitudes, aider le gouvernement à remettre au propre la plage.
Un changement de comportement aidera, à coup sûr, à redonner à la plage de Lomé son lustre d'il y a quelques années. En attendant, les nettoyeurs de la NASAP continuent leur travail de Sisyphe.
7 heures déjà, on commence le travail. Ils ont fait pause. Et à cause de mon état, on reprend jusqu'à 17h. Tous les jours. Le lundi jusqu'à vendredi.
Kossi Ousou, Lomé, pour VOA Afrique.
Retrouvez-nous sur VOA Afrique, 24h sur 24, à Lomé, sur 102.3 FM.
Voilà, c'est tout pour cette édition matinale du Monde Aujourd'hui, VOA Afrique. Merci de l'avoir suivi au micro Idrissa Sevoudia, à la mise en onde Fatouma Kalala Alimassi et à la console Jonah Kabé. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.